Et si on en parlait, une émission parrainée par Hydropièce, concepteur de solutions hydrauliques, zone industrielle des Gravasses à Villefranche-de-Rouergue. Quand il y a de l'eau dans le gaz, une seule adresse, Hydropièce.
Et bonjour à tous.
Une nouvelle émission de Si on en parlait. Bonjour Cathy, donc.
Bonjour Michel,
Erika.
Donc. Bonjour Erika à la technique.
Et bonjour Lisa. Salut Lisa. Aujourd'hui, pas d'invité.
Bah si, quand même. Un invité qui n'est pas avec nous.
C'est pas un invité vivant, bien sûr.
Ah ouais, mais c'est un très très grand invité quand même.
Oui, je sais bien. Voilà. Enfin, il n'est pas.
Et alors, cette année est une année importante pour ce monsieur.
Voilà, donc nous allons vous parler de Jean Jaurès. Et notamment pour vous annoncer un spectacle qui va se passer le 18 juillet à Villefranche d'Albigeois. Et un spectacle sur Jean Jaurès. Donc, voilà.
Voilà. Alors, cette année, on fête les 100 ans. Enfin, si on peut fêter ça, en fait, les 100 ans de sa mort, puisqu'il est mort le 31 juillet 1914. Mais d'abord, on va commencer par sa naissance. Jean Jaurès, de son nom d'état civil Auguste-Marie-Joseph-Jean-Léon Jaurès, est né à Castres le 3 septembre 1859, dans une famille de la petite bourgeoisie du Tarn. Son père, Jules Jaurès, possède une petite exploitation agricole de 6 hectares, dans laquelle son fils passe son enfance et son adolescence jusqu'à l'âge de 17 ans. C'est une époque où il connaît non pas la misère, mais peut-être une certaine gêne qui lui fait toucher du doigt les difficultés du peuple. Sa mère, Adélaïde Barbaza, issue d'une famille d'industriels du textile, s'occupe de l'éducation des deux enfants du couple, Jean, l'aîné, et Louis, qui devint amiral et député républicain socialiste. Je continue par... Tu veux dire quelque chose peut-être, Michel?
Oui, je continue. Veux dire qu'il avait un frère, et avec son frère, tous les matins, il traversait toute la région pour aller à pied à l'école, et donc il côtoyait effectivement tous les paysans, les laboureurs, enfin tous les gens du coin, ce qu'il a fait passionnément aimé tous ces gens-là et qui l'a fait se rapprocher du petit peuple.
Ouais. Alors, il est brillant élève au collège de Castres. Il y est remarqué par un inspecteur général, Félix Deltour, qui convainc ses parents de lui faire poursuivre ses études dans les écoles de l'élitisme républicain, alors qu'il le destinait à l'administration des postes. L'inspecteur lui obtient une bourse qui lui permet de préparer à Paris l'école normale supérieure, au collège Sainte-Barbe, puis au lycée Louis-le-Grand. En 1878, il est reçu premier à l'école normale supérieure en philosophie, devant quand même Henri Bergson. Pas rien. En 1881, il termine troisième à l'agrégation de philosophie, derrière Henri Bergson. Mais parallèlement à tout ça, le 18 mars 1871, c'est le début de la Commune de Paris. Période révolutionnaire jusqu'à la semaine sanglante du 21 au 28 mai.
On va écouter un premier
morceau.
La commune est en lutte, c'est un morceau où on entend Isabelle Huppert qui chante. On le réécoutera en fin de
C'est tiré d'un film, non?
C'est tiré du film Le juge et l'assassin. Et ça parle des jeunes dames qui bossent en usine et qui affrontent donc les policiers qui viennent les faire sortir parce qu'ils sont en grève. Voilà,
la commune est en lutte. C'est le peuple qui commence à se réveiller.
Il y avait la guerre et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la Bure et le bois de Les camarades, et personne n'est à part, approche les parents.
premier de nous est tombé sur les pierres en dernière culbute, une balle en plein front. Sur lui tu t'es penché pour fermer ses paupières, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous affaiblissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir le monde va l'entendre et ne plus l'oublier.
Alors on continue. Devenu professeur, Jaurès enseigne tout d'abord au lycée La Pérouse d'Albi, puis rejoint Toulouse en 1882 pour exercer comme maître de conférences à la faculté des lettres. Il donne également un cours de psychologie au lycée de jeunes filles de cette même ville. Il se marie le 29 juin 1886 avec Louise Bois, rencontrée au château de Loirac, qui est fille d'un marchand de fromage en gros d'Albi et avec qui il aura deux enfants, Madeleine Jaurès ainsi que Louis-Paul Jaurès. Dans le contrat de mariage, la famille Bois offre au jeune couple le domaine de Bessoulet, près de Villefranche d'Albigeois, où il s'installe rapidement. Alors on va écouter peut-être un autre morceau, mais là qui n'a pas grand-chose à voir avec, avec la guerre et avec la commune. C'est la valse brune qui a été écrite à cette époque-là.
À cette époque qui voilà. Raconte un peu toute l'ambiance de l'époque, mais avant la guerre, et c'est interprété par... C'est pas d'aujourd'hui, c'est Georgette Plana.
Oui, c'est pas d'aujourd'hui,
choix,
non.
On avait le choix entre Noir Désir et non, on a choisi
non,
Georgette
pas
Plana.
Noir Désir ne chante pas la valse brune. Rigole. Qu'est-ce qu'il raconte? N'importe quoi.
Allez, Georgette
Plana. La valse brune, on y va, on peut valser. Allons-y.
Ils ne sont pas des gens à valse lente, les brodeurs qui glissent dans la nuit. Ils leur préfèrent la valse entraînante, souple, rapide, où l'on tourne sans bruit. Silencieux, ils enlacent leur belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, léger, ils partent avec elle, dans vague et tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, fortune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune la danse le soir. Ils ne sont pas tendres pour leur épouse et quand il faut savent les corriger. Un seul soupçon de leur âme jalouse et le rôdeur est prêt à se venger. Tandis qu'il fait à Bertou à Léon un madrigal en vers de sa façon. Un brave agent de son talon sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière est fortune et qui recherche de toi noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune la danse le soir. Quand le rôdeur dans la nuit part en chasse et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis pour que tout bruit s'efface
passe, non loin de lui chantent en s'enlaçant, tandis qu'il pille un logis magnifique où d'un combat qu'il sait sortir vainqueur. Les bons bourgeois, grisés par la musique, murmurent tous en chœur. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière est fortune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune la danse le soir.
La valse brune.
Georgette Aplana.
Ouais. Jean Jaurès entre en politique à 25 ans comme candidat républicain à Toulouse aux élections législatives de 1885. Il est élu et siège à l'Assemblée nationale parmi les républicains opportunistes et soutient le plus souvent Jules Ferry. Mais en 1889, il n'est pas réélu. Privé de son mandat de député, Jaurès reprend son enseignement à la faculté de Toulouse. Il est reçu docteur ès lettres en 1892. Sa thèse principale a pour titre « De la réalité du monde sensible ». Il continue également son activité politique. À partir de 1887, il collabore au quotidien de tendance radicale « La Dépêche de Toulouse », la future « Dépêche du Midi ». Il devient conseiller municipal sur les listes radicales socialistes, puis maire adjoint à l'instruction publique de Toulouse, de 1890 à 1893. Ses travaux intellectuels, son expérience d'élu local, sa découverte des milieux ouvriers et des militants socialistes l'orientent vers le socialisme.
Tu as parlé de la Dépêche du Midi, donc je vais en profiter. Je cite, parce que la Dépêche a fait un grand travail sur Jaurès, et l'éditorial de cette revue, Le Petit Jaurès Illustré, est faite par Jean-Michel Baillet. Et qui dit pour la Dépêche, célébrer l'année Jaurès, ce n'est pas seulement appeler au souvenir, c'est rallumer un feu intérieur, raviver une de nos grandes lumières, car celui qui se définissait lui-même comme un paysan cultivé a pendant un quart de siècle, de 1887 à 1914, écrit dans nos colonnes plus de 1500 articles. Autant de textes et d'analyses qui constituent aujourd'hui, tant aux yeux de l'historien que du citoyen, de précieux témoignages sur ce que fut et demeure le combat pour la République et la démocratie. En complète liberté, Jaurès, homme d'ici mais aussi de l'Europe et du monde, a fait partager aux lecteurs du Grand Journal de Toulouse ses points de vue éclectiques et foisonnants sur les grandes questions de la société. Dans la radicale dépêche à laquelle il restera fidèle jusqu'à sa mort, il sera tour à tour défenseur d'une laïcité tolérante, d'une culture ouverte et accueillante, militant du droit, de la paix, de l'émancipation sociale sous toutes ses formes, protecteur des services publics et de l'école, pourfendeur de l'antisémitisme et de toutes les oppressions. Des messages qu'il faut relire tant ils sont toujours de grande actualité. Philosophe idéaliste, moraliste et pourtant solidement accroché aux réalités, économiste, découvreur de talents littéraires, il aura, en projetant son regard sur les horizons improbables de nos mondes modernes, donné à la Dépêche sa double mission de témoin, mais aussi d'acteur de sa région et de son temps. Voilà ce que disait Jean-Michel Baillet.
Jean Jaurès disait « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ». Je trouve ça très joli.
On va écouter « Sous les ponts de Paris
». Qui raconte un petit peu, parce que ça, quand on écoute bien les paroles, ça exprime vraiment... le peuple se retrouve à la rue et la colère va commencer à gronder et se retrouve sous les ponts de Paris, justement.
Voilà. Et on écoute.
On écoute, c'est parti.
Pour aller à Suresnes ou bien à Charenton, tout le long de la Seine, on passe sous les ponts. Pendant le jour, suivant son cours, tout Paris en bateau défile. Le cœur plein d'entrain, ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tout dort tranquille, sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gueux se faufilent en cachette et sont heureux d'y trouver une couchette. Hôtel du courant d'air, où l'on ne paie pas cher, le parfum et l'eau, c'est pour rien mon marquis, sous les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini,
ça va-t-il, la routine, c'est ta fête aujourd'hui. Tiens, prends ce bouquet, quelques brins de muguet, c'est peu, mais c'est toute ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, comme il n'a pas de quoi se payer une chambrette, un couple heureux vient s'aimer en cachette. Et les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus, si l'on partage les baisers de Nini, sous les ponts de Paris. Par la misère, chassé de son logis, l'on voit une pauvre mère avec ses trois petits. Sur leur chemin, sans feu, sans pain, ils subiront leur sort atroce. Bientôt la nuit, la maman dit enfin, ils vont dormir mes gosses. Sous les ponts de Paris, une mère et ses petits viennent dormir là, tout près de la Seine. Dans leur sommeil, ils oublieront leur peine. Si l'on aidait un peu tous les vrais miséreux, plus de suicides ni de crimes dans la nuit. Sous les ponts de Paris.
Sous les ponts de Paris, voilà. Si vous avez bien écouté les paroles, on explique bien le désarroi et la misère justement des gens à cette époque-là. Voilà, alors en 1892, quand éclate la grande grève des mineurs de Carmo, Jean Jaurès est à l'écart de la vie politique nationale. Pourtant, dans ses articles à la Dépêche, il va soutenir les grévistes aux côtés de Georges Clemenceau. Il accuse la République d'être aux mains de députés et ministres capitalistes, favorisant la finance et l'industrie aux dépens du respect des personnes. Durant cette grève, il fait l'apprentissage de la lutte des classes et du socialisme. Arrivé intellectuel bourgeois, républicain social, Jean Jaurès sort de la grève de Carmo acquis au socialisme. Il est élu le 8 janvier 1893 comme socialiste indépendant, malgré les votes ruraux de la circonscription. Désormais, Jean Jaurès représente à la Chambre des députés les mineurs de Carmo. Il se lance alors dans une incessante et résolue défense des ouvriers en lutte.
Oui, alors quelques personnages qui sont à cette époque, il y avait Victor Hugo, 1802-1885, il est élu à l'Assemblée nationale en 1871, visionnaire, il proposait les États-Unis d'Europe, l'instruction gratuite, l'abolition de la peine de mort, l'égalité des droits pour la femme. Ensuite, il y avait aussi Émile Zola, on en parlera tout à l'heure, écrivain puissant et prolifique, témoin des injustices, il signe le J'accuse pour la défense du capitaine Dreyfus, dénonce la machination militaire entraînant sa propre condamnation et son exil jusqu'à la révision du procès. Il y a eu Pierre Valdec-Rousseau, président du Conseil de 1999 à 1902, Pierre Valdec-Rousseau fait voter la loi sur les associations du 1er juillet 1901. La loi de 1901 est une loi de liberté de fonctionnement, liberté de créer, d'adhérer, liberté de démissionner. Ensuite, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique, il met en œuvre les lois scolaires instituant l'école primaire gratuite et obligatoire, école publique ouverte à tous, sans distinction d'aucune sorte, devient le creuset où se forgent de futurs citoyens responsables. Et à cette époque, donc, il y a des gens qui chantent, comme Jean-Baptiste Clément.
Oui, qui a écrit une très jolie chanson qui va devenir, qu'on écoutera tout à l'heure, qui va devenir l'hymne de la commune. Mais là, on va écouter une chanson magnifique de Michel Fugain sur justement Jean-Baptiste Clément. Je voudrais juste dire encore une citation de Jaurès. Il a écrit « Le premier des droits de l'homme, c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail ». On écoute Michel Fugain avec Jean-Baptiste Clément.
Un certain Clément Jean-Baptiste qui habitait rue Saint-Vincent, voulant écrire un compliment trempa sa plume dans le sang. Qu'elles étaient rouges les cerises que nous chantait Monsieur Clément. C'était plus beau qu'un évangile, c'était des mots de maintenant. Mais il faudrait que nos enfants n'attendent pas comme on attend qu'elles mûrissent les cerises que nous chantait Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans, mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps? De république en république, toujours cocu, toujours content, on applaudit les bons truands, au ventre rond, au ventre blanc, qui nous revendent les cerises qu'avait rêvé Monsieur Clément. Tous ces pontifes des églises, tous ces suiveurs de régiments, voudront nous manger tout vivant, mais ils se casseront les dents sur les noyaux de ces cerises du verger de Monsieur Clément. Bien sûr, c'est difficile de mourir quand on a 20 ans, mais pour quelques cerises, que ne ferait-on au printemps?
En fait, le vrai titre, c'est Les cerises de Monsieur Clément. Et justement, pour bien comprendre cette chanson, on va écouter tout de suite Le temps des cerises de Jean-Baptiste Clément, justement.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et gai rossignol et merle moqueur seront tous en fête, les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Voilà, c'était Le temps des cerises qui est devenu l'hymne de la commune.
Et avant de parler du Dreyfusard, c'est donc l'affaire Dreyfus. Ouverte en 1894, l'affaire Dreyfus s'était conclue en décembre par la condamnation du capitaine Dreyfus, soi-disant pour trahison et compagnie, quoi. Mais enfin, c'était plus politique qu'autre chose. La décision est contestée le 13 janvier 1898 par le J'accuse d'Émile Zola, publié dans l'Aurore. Informé fin 1997 de la réalité de l'affaire, Jaurès se mobilise pour une cause qu'il avait mal jugée. Après la déclaration du ministre de la guerre Cavaignac, affirmant détenir des preuves contre Dreyfus, c'est Jaurès qui mène la charge au procès Zola, et le combat qu'il mène pour la vérité focalise haine et incompréhension, et il est battu aux législatives à Carmaux. Il sollicite un cours à la Sorbonne, mais essuie un refus sans appel. Il publie les preuves de l'innocence de Dreyfus dans la Petite République, et c'est alors que tout bascule. Le colonel Henri avoue être l'auteur du faux qui accusait le capitaine. Dreyfus est libéré, mais sa réhabilitation n'interviendra qu'en 1906. C'est l'affaire Dreyfus.
Oui, l'affaire Dreyfus, oui. Oui, oui, pour Jaurès, l'affaire est non seulement un problème de justice individuelle, mais surtout de respect de l'humanité elle-même. Et je vais juste lire un court extrait de l'épreuve, écrit par Jaurès. Si Dreyfus a été illégalement condamné, et si en effet, comme je le démontrerai bientôt, il est innocent, il n'est plus ni un officier, ni un bourgeois. Il est dépouillé, par l'excès même du malheur, de tout caractère de classe. Il n'est plus que l'humanité elle-même, au plus haut degré de misère et de désespoir qu'on puisse imaginer. Nous pouvons, sans contredire nos principes et sans manquer à la lutte des classes, écouter le cri de notre pitié, nous pouvons, dans le combat révolutionnaire, garder des entrailles humaines. Nous ne sommes pas tenus, pour rester dans le socialisme, de nous enfuir hors de l'humanité. On voilà. va écouter un morceau, justement.
Et on va écouter Dreyfus, qui sera suivi par une chanson de Jean-Roger Cossimon, la complainte de Bouvier. Et Bouvier, c'était un colporteur, enfin, qu'on appelait l'anarchiste de Dieu, qui se trimbalait sur les bords des routes et que les gens n'aimaient pas, justement, parce qu'il y avait toute cette affaire Dreyfus derrière. Et ce monsieur en profitait pour assassiner des tas de gens. Et on écoutera un extrait du passage avec Philippe Noiret, justement, et le grand acteur qui interprétait l'assassin, dont le juge c'était Philippe Noiret, sinon c'est celui qui jouait
Michel Hulot, c'est un trou de mémoire. Bon, ça reviendra plus tard.
Donc on va écouter Dreyfus, qui sera suivi par La Complainte de Bouvier.
Alors
interprété
Dreyfus,
par
Jean-Roger
Cossimon.
Une chanson de Yves Duteil. Alors en fait, ce que j'ai appris là, en faisant les recherches, c'est que Yves Duteil, oui, c'est la famille à Dreyfus en fait. Mm-hmm. Je ne sais plus exactement le lien qui l'unit à Dreyfus, mais je pense qu'il le dit dans la chanson, donc on va écouter.
Donc on va enchaîner Dreyfus et La Complainte de Bouvier.
Allez, c'est parti.
Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense, tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre en s'exposant pour lui. Je suis un peu son fils et c'est moi que l'on traîne au palais d'injustice en l'écoutant à peine. Et quand Paris s'enflamme alors qu'on l'injurie, le coupable pavane à quatre pas d'ici. Lucie, mon corps est à genoux, mais mon âme est debout. Un jour je reviendrai vers la terre de France, crier mon innocence et retrouver la paix. Ici, je n'ai plus rien de toi, et j'ai peur quelquefois que ma raison s'égare. Si je perds la mémoire, si j'oublie qui je suis, qui pourra dire alors à ceux qui m'aiment encore que je n'ai pas trahi, que j'ai toujours porté l'amour de mon pays bien plus haut que ma vie, bien plus haut que la vie. C'était il y a 100 ans, Dreyfus est mort depuis, mais je porte en chantant tout l'espoir de sa vie. Pour la mémoire des jours, puisqu'en son paradis, on sait depuis toujours qu'il n'a jamais trahi. Il n'a jamais trahi son cœur, ni son pays.
Le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, ni s'il lui réserve une récompense. Jean Jaurès.
Il dit des belles choses, quand même.
Ah ouais.
Alors maintenant, on va écouter donc la complainte de Bouvier, interprétée par Jean-Roger Cosimon. C'est extrait du film Le juge et l'assassin, un extraordinaire film avec Philippe Noiret qui joue le juge et Michel Galabru qui joue l'assassin. Et il a eu d'ailleurs le César du meilleur acteur pour cette interprétation. Et ça raconte l'histoire d'un gars qui fait la route, un trimardeur, qui a 2 balles dans la tête, enfin, et qui devient un peu fou, qui assassine des tas de jeunes enfants, et qui s'appelle, et qui dit ça parce que c'est Dieu qui le guide, l'anarchiste de Dieu. Et c'est pile à l'époque, justement, où on a besoin d'un coupable, voilà, donc, tous les gens le font tuer. Et comme ça s'est passé ensuite avec le pullover rouge plus récemment, et c'était politique, bien sûr. Et c'était anti-anarchiste, il y a l'affaire Dreyfus, tout ça. Vous allez entendre un extrait du film et la chanson de Bouvier interprétée par Jean-Roger Cosimon.
On punit les ouvriers en grève, on ne punit pas assez les vagabonds.
Pour éviter d'autres Bouviers, il faut des lois plus répressives. Des peines de prison beaucoup plus importantes contre les cheminots.
Attends.
Des peines de prison beaucoup plus importantes contre les cheminots, ces parasites qui ne songent qu'à 2 choses, satisfaire leur faim et leur plaisir sexuel. Cette année, j'ai dénombré 18 067 délits commis par ces associés.
Oh, mais dis donc, ça devient une affaire politique.
Maman, je te l'ai dit 100 fois, je ne fais pas de politique.
Monsieur le juge, j'ai écrit un petit couplet pour vous, je serais content de vous le dire.
Mais allez-y.
S'il est un homme de conscience, c'est monsieur le juge Rousseau, de l'anarchiste cheminot. Il a su gagner la confiance. Le résultat sera superbe si Bouvier se croit son ami. À malin, malin.
Très bien, très bien. Très bien, mais vous allez me fâcher avec Bouvier. Je ne veux pas que vous parliez de moi. Pas encore.
Mais quand alors?
Après.
Petit berger, jolie bergère, innocent joueur de pipeau, quand vos moutons se désaltèrent à l'onde claire d'un ruisseau. Dans les roseaux, dans les fougères, vous redoutez de voir le loup ravir un agneau tout à coup et l'emporter dans sa tanière. Mais il est le plus grand danger auquel vous n'avez pas songé. Il existe des bêtes pires que le tigre altéré de sang, plus funeste que le vampire et plus traître que le serpent. Ce sont les fous qui violentent et signent leur acte pervers en taillant à même la chair de leurs victimes innocentes. C'est au comble de cette horreur que parvint Bouvier l'éventreur. Bouvier est bien de cette engeance de trimardeur de cheminots, mendiant le gîte et la pitance, anarchistes et marginaux. À la moisson et aux vendanges, on le voit hanter les hameaux, cachant toujours sous son chapeau son regard aux lueurs étranges. Il paraît pourtant bon garçon quand il joue de l'accordéon. Il fit ainsi un long périple, revenant parfois sur ses pas, commettant des crimes multiples, jusqu'au jour où on l'arrêta. Alors il dit qu'en sa jeunesse, un chien enragé l'a mordu, et qu'un médicament a dû mettre son esprit en faiblesse. Par surcroît, c'était odieux, se prétend inspiré par Dieu. Que ma complainte finisse, j'attends l'issue du jugement. Dans notre pays, la justice ne se trompe que rarement. Donc, bonnes gens, faites confiance aux enquêteurs, aux magistrats, au tribunal qui jugera celui qui fit trembler la France. En attendant que les geôliers veillent nuit et jour sur Bouvier.
C'est beau comme si j'étais mort.
Voilà, c'était la chanson de Bouvier qui parle un peu du climat qu'il y a en France à cette époque avec Dreyfus, l'anarchisme, enfin tout un truc... guerre civile sous-jacente, la guerre pas loin.
Et oui, qui monte. Ouais. Avec l'affaire Dreyfus, Jaurès devient un homme politique à l'influence nationale. Battu aux élections de 1898, l'installation de la verrerie ouvrière à Albi et son ardente défense de Dreyfus ont provoqué sa défaite. Jaurès se consacre au journalisme et devient co-directeur de La Petite République, un journal socialiste républicain. C'est dans les colonnes de ce journal qu'il publie les preuves relatives à l'affaire Dreyfus. En 1902, Jean Jaurès participe à la fondation du Parti Socialiste Français. La même année, il parvient à reconquérir le siège de député de Carmaux, qu'il conservera d'ailleurs jusqu'à sa mort. Son talent d'orateur lui permet de devenir le porte-parole du petit groupe socialiste de l'Assemblée nationale. En 1904, Jaurès fonde le quotidien L'Humanité, qu'il dirige jusqu'à sa mort. L'équipe qui lance le journal avec Jaurès n'est pas composée de journalistes en titre, mais d'intellectuels qui ont vécu aux côtés du député socialiste trois combats victorieux. Le droit ouvrier à la politique, bafoué à Carmaux par le marquis de Soulages et qui s'impose en 1892. La justice rendue au capitaine Dreyfus et la liberté de conscience, objet d'un débat qui fait rage en 1904 et qui sera inscrite dans la loi de séparation des églises et de l'État. De grandes plumes s'associent au projet, Anatole France, Octave Mirbeau, Jules Renard. Oui, voilà.
Donc, France à ma France de Jean Ferrat,
il n'y a qu'un pas. Et oui, de l'humanité
Jean
à ma France.
Voilà, Jean Ferrat. Le trait d'union est là, la France, Jean Ferrat, l'humanité. On écoute ma France. Voilà.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche, ma France. Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres des luards s'envolent des colombes, ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui pète toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle, elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France.
Voilà, c'était ma France de Jean Ferrat. Alors, quelques citations de Jean Jaurès. Quel que soit l'être de chair et de sang qui vient à la vie, s'il a figure d'homme, il porte en lui le droit humain. Une autre, c'est qu'au fond, il n'y a qu'une seule race, l'humanité.
Oui. Alors je continue sur la vie de Jaurès. Jaurès lutte contre la venue de la guerre les 10 dernières années de sa vie. Il est très préoccupé et inquiet face à la montée des nationalismes et aux rivalités entre les grandes puissances, surtout pendant les guerres balkaniques en 1912 et 1913. En 1910, il rédige une proposition de loi consacrée à l'armée nouvelle, dans laquelle il préconise une organisation de la défense nationale fondée sur la préparation militaire de l'ensemble de la nation. Jaurès est un cas singulier, pacifiste mais passionné par la défense et par la stratégie militaire. L'année 1914 semble relancer les espoirs de paix. La guerre dans les Balkans est finie. Les élections en France sont un succès pour les socialistes. Mais l'attentat de Sarajevo, le 28 juillet 1914, et l'ultimatum autrichien à la Serbie du 23 juillet 1914 relancent les tensions entre les grandes puissances. Jaurès tente d'infléchir, dans un sens favorable à la paix, la politique gouvernementale. Il rappelle le mot d'ordre de grève générale décidé par l'Internationale ouvrière en cas de déclenchement de la guerre. On va faire une petite pause et on va écouter justement le chant des ouvriers. On écoute le chant des ouvriers.
Nous, dont la lampe le matin au clairon du coq se rallume, nous tous qu'un salaire certain ramène avant l'aube à l'enclume, nous qui des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriter nos lendemains contre le froid et la vieillesse. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. Quels fruits tirons-nous des labeurs qui courbent nos maigres échines? Trouvons les flots de nos sueurs, nous ne sommes que des machines. Nos babelles montent jusqu'au ciel, la terre nous doit ses merveilles. Dès qu'elles ont fini le miel, le maître chasse les abeilles. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise au grande. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. À chaque fois que par torrent notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre.
Des ouvriers.
Le pacifisme de Jaurès le fait haïr des nationalistes. Pendant la journée du vendredi 31 juillet 1914, il tente, d'abord à la Chambre des députés, puis au ministère des Affaires étrangères, de stopper le déclenchement des hostilités. En fin d'après-midi, il se rend à son journal L'Humanité pour rédiger un article qu'il conçoit comme un nouveau J'accuse. Avant la nuit de travail qui s'annonce, il descend avec ses collaborateurs pour dîner au Café du Croissant, rue Montmartre. Vers 21h40, un étudiant nationaliste, Raoul Villain, tire deux coups de feu par la fenêtre ouverte du café et abat Jaurès à bout portant.
Brel.
Ils étaient usés à 15 ans, finissait en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couvert de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, dans du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès?
Le courage, c'est de comprendre sa propre vie. Le courage, c'est d'aimer la vie et de regarder la mort d'un regard tranquille. Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Jean Jaurès.
Le 23 novembre 1924, le corps de Jean Jaurès a été transféré au Panthéon.
Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir.
Voilà, Jean Jaurès. C'était un petit voyage avec la vie de Jean Jaurès. Et on vous dit au revoir parce que
c'est
l'heure. Et on se quitte sur...
Je ne sais pas.
La commune est en marche.
Non,
elle n'est pas
morte. Elle n'est pas morte et la lutte continue.
Voilà.
À la semaine prochaine.
Elle n'est pas morte. Au revoir.
Bye.
Erika.
Et merci à Jean Jaurès.
On l'a tué à coups de chasseau, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheurs rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps, ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas, que la commune n'est pas morte. Les journalistes policiers, marchands de calomnie, ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes Ducamp, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Vallès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fier tas à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas que si ça marche de la sorte, ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Et si on en parlait, une émission parrainée par Hydropièce, concepteur de solutions hydrauliques, zone industrielle des Gravasses à Villefranche-de-Rouergue. Quand il y a de l'eau dans le gaz, une seule adresse, Hydropièce.